MagEcho à la veille de la COP24. Nous qui parlons toutes les semaines ou presque des fins de mois, émission spéciale ce samedi consacrée à la fin du monde, ou plutôt aux façons de la repousser cette fin du monde. Comment atténuer le réchauffement climatique? C'est aussi une question économique. Faire la transition, en clair, ça veut dire produire et consommer autrement notre énergie. La France s'en donne-t-elle les moyens? Cette semaine, le chef de l'État a annoncé ses choix. On en discute dans un débat grand format. J'accueille la présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme, fondation créée par Nicolas Hulot, on peut le rappeler. Bonjour Audrey Pulvar.
Bonjour Alexandra Ben Saïd.
À vos côtés, les éditorialistes du MagEcho, Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques et Emmanuel Lechypre de BFM Business. Bonjour à vous les débatteurs.
Bonjour à tous.
L'invité du MagEcho, un opérateur au centre de l'échiquier, c'est le PDG d'EDF en exclusivité. Dans On n'arrête pas l'écho, Jean-Bernard Lévy, il sera dans ce studio à 9h44. Tout de suite, l'actualité, ce que va faire la France en matière d'énergie, les grands choix, c'était cette semaine.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
27 novembre 2018.
À tous ceux qui disent en quelque sorte...
Emmanuel Macron.
On l'entend le président de la République, on l'entend le gouvernement, ils évoquent la fin du monde, et nous on parle de la fin du mois. C'est que nous allons traiter les deux.
Le président a annoncé la fermeture de 14 réacteurs d'ici 2035.
Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des deux réacteurs de Fessenheim.
Je pense que ce qui a été annoncé hier est capital.
Isabelle Cochère.
Je pense que ça remet la France en situation d'être leader.
Directrice générale du groupe Engie.
Avec finalement une idée qui est la transition écologique compétitive.
Qu'est-ce qu'il y a vraiment de nouveau dans ce qui a été annoncé hier? C'est uniquement le nucléaire.
Ségolène Royal.
C'est quand même le report de 10 ans de la baisse de la part du nucléaire. C'est-à-dire on passe à l'horizon 2025 à 2035, 10 ans.
Ancienne ministre de l'écologie.
Le lobby du nucléaire l'a emporté.
Je trouve ça absurde.
Colette Levinaire.
Sur le fond, il faut raisonner dans l'intérêt du pays et pas dans l'intérêt de tel lobby ou tel lobby.
Conseillère énergie à Capgemini.
Le nucléaire est une énergie décarbonée. Les énergies renouvelables, moi je suis vraiment pour les énergies renouvelables, solaire ou l'éolien, mais ce sont des énergies intermittentes. Vous n'avez pas de soleil, vous n'avez pas d'électricité. Quand vous n'avez pas de vent, vous n'avez pas d'électricité.
Le chef de l'État s'est engagé à rendre les taxes sur les carburants modulables en fonction du prix du baril.
La taxe, plus ou moins flottante, ça s'appliquera quand?
Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière.
En tout cas, pas tout de suite, puisque le prix du baril est en train de baisser. Donc du coup, l'effet en question, il est pour plus tard.
Le principe, c'est qu'avec tous les acteurs...
Elisabeth Borne, ministre des Transports.
On travaille ensemble pour avoir une transition écologique qui ne laisse personne de côté.
Ça n'est pas à la hauteur du débat.
Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts, tête de liste aux élections européennes.
On nous ressort ce qui existe déjà, en bougeant un peu les curseurs, mais sans répondre à la question de fond, c'est comment on fait en sorte que chaque euro collecté à travers la fiscalité écologique soit rendu aux Français pour les accompagner dans cette nécessaire transition et pour investir.
La transition écologique et l'équation financière. Alors cette semaine, on a eu la programmation pluriannuelle de l'énergie, cette fameuse PPE. Ce sont les grands choix, les grands objectifs que se donne le pays pour les 10 prochaines années. Christian Chavagneux, quel est, faites-nous comme d'habitude la photo, c'est votre rôle le samedi, quel est l'enjeu? Il y a plusieurs enjeux en fait.
Ouais, l'enjeu c'est celui de l'accord de Paris d'abord, le plus gros enjeu. Hein, comment réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés? Comment on va faire ça? On va se fixer des paliers de décompression, c'est-à-dire en réduisant progressivement nos émissions, en se fixant des paliers. L'objectif final c'est quoi? Nicolas Hulot l'a dit, c'est la neutralité carbone en 2050. Ça veut dire quoi la neutralité carbone? Ça veut dire qu'on va continuer à émettre encore du CO2, mais ce que nos sols et nos forêts peuvent absorber sera équivalent à ce qu'on émet. Donc on sera neutre sur le plan carbone. Pour y arriver, il y a une stratégie nationale bas carbone qui fixe les plafonds d'émissions de carbone de 2019 à 2033. Pour les trois quarts de ces émissions en France, c'est de l'énergie, c'est dû à la production d'énergie. Pour un quart, c'est dû à l'agriculture. L'agriculture, pour l'instant, le président n'a rien dit. Pour les trois quarts qui sont liés à l'énergie, on a la fameuse PPE dont vous avez parlé, qui fixe les paliers de décompression 2019-2020. Et là, le président de la République a annoncé la politique de la France sur le sujet.
Donc là, tout d'abord, on a là le bas carbone, comment décarboner l'économie. Il y a un autre enjeu, ça se mélange, Audrey Pulvar, c'est diminuer la dépendance au nucléaire, c'est ça? L'enjeu pour la France?
Ah oui, mais tout est lié. Le premier enjeu, c'est la sobriété énergétique. c'est commencer par baisser notre consommation globale d'énergie, quelle que soit la source d'énergie. Et pour cela, il y a des mesures à mettre en œuvre que le gouvernement ne met pas en œuvre, ou en tout cas timidement, à commencer, et je pense que ça aiderait bien beaucoup des gilets jaunes qui sont dans la rue, à commencer par la rénovation énergétique du bâtiment. Il y a quand même 11 millions de personnes qui sont en situation de précarité énergétique en France, qui sont exposées notamment aux températures hivernales et qui n'ont soit pas les moyens de se chauffer, soit le font mal et dépensent beaucoup trop d'argent par rapport à leurs moyens pour ça. Et donc, c'est 7 millions de personnes qui sont concernées par 7 millions de logements et 11 millions de personnes qui sont concernées par cette inefficacité énergétique. Et puis, il y a la question, évidemment, des transports, qui n'est pas négligeable dans notre production de gaz à effet de serre. C'est d'où tous les soucis du gouvernement depuis 3 semaines. L'enjeu, c'est effectivement, pour répondre plus précisément à votre question, à la fois de réduire notre production de gaz à effet de serre, de mettre en place des systèmes qui permettent, comme le disait à l'instant Christian Chavagneux, de capter le CO2, que l'agriculture notamment nous aide, mais que d'autres dispositifs, y compris en ville, nous aident à capter le CO2 pour éviter bien que nous continuions à participer au réchauffement climatique global.
Emmanuel Le Chypre.
Je crois qu'il faut rappeler aussi que ce qui est en cause, ça n'est pas que de la vertu. C'est-à-dire que ça n'est pas uniquement cette idée qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique pour protéger la planète. C'est qu'il y a un intérêt économique, parce qu'il y a un coût économique énorme au réchauffement climatique. Mmh. Et ça, ce qu'il faut marteler, c'est bien que il y a un alignement à long terme entre l'intérêt du climat, l'intérêt de la planète et l'intérêt de chacun d'entre nous pour notre vie quotidienne et même notre pouvoir d'achat.
Exemple.
Je veux dire, le coût annuel, si vous regardez du réchauffement climatique, alors il a été estimé par plein d'études, on vous dit en gros, à l'horizon 2050, c'est entre 5 et 20% du PIB mondial. Si vous prenez l'OCDE, Nicolas Stern, etc. Pour la France, en 2050, ce serait 150 milliards d'euros par an de coût du réchauffement climatique à travers la cherté de l'énergie, à travers les dérèglements de météo sur l'effet sur les récoltes, les inondations, etc. L'autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est que plus on attend avant de s'engager dans cette transition, plus ça coûte cher. C'est-à-dire que quand vous regardez les estimations des grandes institutions internationales sur le coût de ce réchauffement climatique, on vous disait qu'à l'échelle mondiale, ça c'est l'Agence internationale de l'énergie, qui nous disait en 2012 que ça allait coûter 36 000 milliards de dollars. On nous dit aujourd'hui que ça va en coûter 44 000 milliards. Et l'autre avantage, c'est que plus vous vous engagez vite, plus les effets sont aussi positifs à long terme. Et donc, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que ça générera plus de croissance, cette transition énergétique, à travers la rénovation énergétique, les créations d'emplois, etc. Le problème, comme souvent en économie, c'est la fameuse courbangie. C'est-à-dire que avant que des politiques produisent leurs effets positifs, elles produisent des effets négatifs. Et c'est aujourd'hui là-dessus qu'on devrait exclusivement focaliser l'effort des politiques économiques.
Ça trépigne autour de vous.
Non, mais c'est formidable, parce que moi, je vous écoute tous les samedis matins. C'est rare que je sois à 100% d'accord avec Emmanuel Le Chypre.
Oui, avec moi, oui, vous êtes plus souvent d'accord avec Christian.
Oui, j'avoue, je suis plus souvent d'accord avec Christian. Eh bien là, c'est le cas. Mais je n'aurais pas pu dire mieux, cher Emmanuel Le Chypre. Oui. La non-transition écologique, ça coûte cher. Le chef de l'État a dit il y a quelques semaines, ah, mais la transition écologique, ça coûte cher. Et puis les écolos, on les voit pas quand il s'agit de défendre les mesures les plus difficiles. Mais on est là. Évidemment qu'on est au rendez-vous quand il s'agit de défendre les mesures les plus difficiles. Et la non-transition écologique, ça coûte cher. Et pour abonder dans le sens d'Emmanuel Le Chypre sur la fin de son intervention, ce qui est important aujourd'hui et ce que réclament les ONG environnementales depuis des mois au gouvernement, c'est l'accompagnement social de la transition écologique et solidaire. C'est de la justice sociale. D'une part parce que les premières personnes à subir, pour ne serait-ce que pour la question de la taxe carbone, les premières personnes à subir effectivement l'impact de la hausse de cette taxe carbone, ce sont les classes les moins favorisées de la population. Mais ce sont aussi ces personnes qui subissent l'impact du réchauffement climatique, y compris dans notre pays. Je vous parlais tout à l'heure des 7 millions de personnes en situation de précarité énergétique. Ce sont elles qui subissent les effets du réchauffement climatique, les effets des phénomènes climatiques qu'aujourd'hui on appelle catastrophes naturelles, dont on sait très bien qu'elles sont de moins en moins naturelles puisque l'action de l'homme y a de plus en plus de responsabilités, ce sont les plus défavorisés qui le subissent. Les effets de la pollution, les effets des perturbateurs endocriniens, ce sont souvent les plus défavorisés qui les subissent. Donc, mettre en place des mesures ambitieuses, ce qui n'est pas encore le cas, pour lutter contre le réchauffement climatique en France, c'est d'abord passer par plus de justice sociale, et c'est ce que le gouvernement n'a pas fait depuis le début du quinquennat, et c'est ce qu'il paye aujourd'hui.
Christian Chavagneux.
C'est ce que le gouvernement ne fait pas, parce que là, on vient de faire le constat et les deux autres intervenants disent maintenant
il va falloir nous dire ce qu'a dit,
faut faire quelque chose. Et moi, je trouve qu'Emmanuel Macron, il nous a annoncé trois mauvaises nouvelles. Audrey Pulvar a commencé tout à l'heure en disant la première énergie qui ne nous coûte rien, c'est celle qu'on ne consomme pas. Or, l'énergie, le gouvernement a réduit l'effort prévu jusqu'à présent en termes de réduction de la consommation d'énergie. Alors, c'est vrai que dans les différentes sources d'énergie, le ministre François Rugy nous a dit on va réduire plus vite que ce qu'on avait prévu avant la dépendance aux énergies fossiles. Mais l'effort malin, il est reporté au quinquennat suivant, c'est-à-dire 2023, après moi le déluge climatique, si c'est pas lui qui est réélu, il dira c'est pas de ma faute. Et attention, il se produit grâce à la fermeture des centrales à charbon. C'est bien, mais avec un
bon effort. Qui était déjà prévu.
Qui était déjà prévu. Mais du coup, on voit dans les chiffres de François Rugy qu'il y a moins effort sur le pétrole et sur le gaz. Donc, attention, et puis c'est le grand n'importe quoi en matière nucléaire. Mais vraiment, le grand n'importe quoi. On a l'impression que le gouvernement ne s'est pas fait une règle de trois. Je vais vous donner deux, trois chiffres qui vont vous faire voir, mais que c'est n'importe quoi le choix du président de la République. Le président de la République, il nous dit on va fermer 14 réacteurs. D'accord ? Ça, c'est clair.
Sur 58,
sur 58. On va en fermer 14. Oui. On espère que les ingénieurs d'EDF vont finir par retrouver la clé de l'EPR et qu'il va démarrer quand même. Donc on aura un EPR et 14 en moins. Ça nous fait combien d'électricité qu'on peut produire une fois qu'on aura fait ça, d'accord ? Les ingénieurs font le calcul. En gros, ça fait 340 TWh. Et le président de la République nous dit ça, ce sera 50% de la production d'électricité, puisque le nucléaire, c'est 50%. Donc, 2 fois 340, ça fait 680. Vous savez combien on en consomme aujourd'hui en France ? 480. Et tous les experts public, privé, nous disent que la consommation d'électricité en France, elle va au mieux stagner, sinon baisser. Donc 480 et moins qu'on va consommer, on va produire 680. Mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Eh ben, le gouvernement nous dit, on va les exporter au reste du monde. Aujourd'hui, on en exporte 50. Ça veut dire qu'on va multiplier par 4 nos exportations.
On posera la question au PDG d'EDF. Vous savez que c'est l'invité dans l'arrêt de l'écho.
On va le vendre à qui ? Les Allemands, les Espagnols, ils sont en train d'installer de l'énergie renouvelable. Ils veulent de l'énergie propre et locale. Ils veulent pas du nucléaire français. Donc, soit les chiffres sont complètement incohérents, et ça veut dire qu'on va tenir les 50%, mais on ne pourra pas le faire, soit on ne va pas tenir les 50%, et le président de la République nous ment. Parce que si on fait vraiment toute cette production nucléaire, on va inonder le marché européen d'électricité, les prix vont chuter, et EDF va courir à la catastrophe, et c'est nous les contribuables qui allons payer.
Juste une chose, on est d'accord que le nucléaire, dans cette équation d'économie décarbonée, là c'est neutre de dire, ça n'est pas une énergie carbonée, c'est pas une énergie qui émet du CO2.
Ah oui, alors ça c'est le grand argument. Le nucléaire, ce serait une énergie propre et à bas coût. Alors, d'abord, ce n'est pas une énergie à bas coût. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. On sait très bien, et au contraire, le président a même ouvert la porte éventuellement à un nouvel EPR en disant qu'il allait demander à EDF d'évaluer l'EPR de Flamanville et puis de présenter un nouveau scénario en 2021. C'est-à-dire qu'on continue dans cette folie du nucléaire, effectivement, comme dit Nicolas Hulot, qui nous coûte une fortune, qui coûte des milliards et des milliards d'euros. Flamanville, enfin, c'est exponentiel. Entre le budget de départ et le budget, on n'est même pas encore à l'arrivée. Et pour compléter ce que disait à l'instant M. Chavagneux, non seulement on sera en surproduction d'électricité nucléaire, dont on ne saura que faire, parce que les Français ne vont pas consommer plus d'électricité. C'est pas des écologistes doux rêveurs qui le disent, c'est des gens comme RTE qui sont quand même des gens sérieux.
Le réseau de transport d'électricité.
Non seulement les Français ne vont pas la consommer, mais nos voisins ne vont pas la consommer non plus, cette électricité. Et en plus, on nous dit qu'en même temps, on va monter, et ça c'est quand même bien, les énergies renouvelables. Donc on va avoir plus d'énergie renouvelable et trop de nucléaire. Qu'est-ce qui va se passer ? Effectivement, les prix de l'électricité vont baisser et la garantie qui a été donnée par l'État aux producteurs d'énergie renouvelable qu'ils auront des prix qui leur permettront de gagner leur vie, eh bien l'État devra y faire face. Comment ? En les indemnisant. Donc c'est vraiment, on va payer, c'est vraiment jeter de l'argent par les fenêtres et c'est un peu se moquer du monde. Parce que quand Emmanuel Macron dit on va fermer 14 réacteurs à l'horizon 2035, d'abord c'est pas évidemment dans ce quinquennat, c'est pas dans le quinquennat prochain, c'est après. Donc même s'il est réélu, il ne prend aucun risque avec cette annonce. Ensuite, il annonce la fermeture, en plus de Fessenheim qui était déjà prévu, de 2 réacteurs en 2027-2028 et peut-être après on verra ce qui va se passer d'ici 2035. Alors que RTE, que je vous citais à l'instant, qui est quand même dont on peut louer l'indépendance de le réseau de transport d'électricité, et ils ne sont pas les seuls, a publié plusieurs scénarios qui montrent qu'on aurait pu atteindre l'objectif que le chef de l'État se fixe en 2035, dès 2030, et en fermant beaucoup de plus de réacteurs, en fermant au moins 16 réacteurs d'ici 2030.
En effet, non, mais il y avait d'autres scénarios sur la table. C'est celui-ci qui a donc
été... Il a choisi le scénario du statu quo. Effectivement, il a choisi le scénario du lobby nucléaire. Il a choisi le scénario de l'irresponsabilité.
Bon, on en rediscutera évidemment. Non, mais bien sûr, ça fait partie, c'est ce qui est sur la table. Dans cette transition énergétique, on en rediscutera, donc je le répète, avec le PDG d'EDF.
Le problème, c'est que
Emmanuel Le Chypre.
Pour le coup, moi, je trouve que c'est pas si mal que ça d'avoir choisi. L'avantage de la stratégie choisie par Emmanuel Macron, c'est que c'est une stratégie qui évite un peu l'écueil des affrontements quand même idéologiques qui empêchent de voir les vrais sujets. C'est-à-dire que on y va vers moins de nucléaire. C'est vrai qu'on a un peu peur quand on voit c'est vrai que ça EDF avec cette alliance française très typique d'un lobby ultra puissant qui est une espèce de quintessence d'alliance entre les syndicats et les grands corps d'ingénieurs qui est quand même ce qui se fait de plus puissant en France. On a l'impression qu'avec la voiture électrique en gros on nous refait le coup du chauffage électrique. C'est-à-dire qu'en gros EDF a dit il faut foutre du chauffage électrique partout dans les années 60-70 parce que ça permettait d'économiser le nucléaire avec des projections de consommation qui étaient supérieures aux prévisions. Là on a l'impression qu'avec la voiture électrique on nous refait le coup, c'est-à-dire qu'il va falloir produire énormément d'électricité.
Mais non, pas énormément. Une voiture, c'est que ça produit autant d'électricité.
Ouais, alors moi je me lance pas dans ces débats.
Déjà, faut arrêter d'imaginer qu'on va remplacer chaque véhicule thermique par un véhicule électrique.
Alors, il y a ça aussi, effectivement.
Ça, c'est déjà une erreur d'appréciation au départ.
Et donc, je pense qu'il évite l'affrontement direct. Par contre, il y a le vrai sujet, c'est le sujet stratégie nucléaire aussi. C'est-à-dire que il y a d'autres façons de faire du nucléaire que de le faire avec un EPR qui est de toute façon dès le départ, on le sait, qui est trop gros, trop coûteux, qui produit
sur les nouvelles technologies,
trop cher, etc. Moi, je pense qu'il y a quand même peut-être des choses à faire du côté d'un nucléaire un peu plus sobre et intelligent.
Alors, si on va peut-être pas refaire tout le débat, les auditeurs, on aimerait leur dire, comment vous allez faire la transition, où sont les financements.
Je veux juste donner un chiffre, c'est que la production d'origine nucléaire, ça représente 10% de la production d'électricité dans le monde, ça évite 2,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Le nucléaire, ça évite 2,5% des émissions. Donc, quand on nous dit le nucléaire, ça sert à faire du décarboné, c'est faux, 2,5%.
Donc Christian, il ne faut pas que ce débat se focalise autour d'un débat anti et pro-nucléaire.
Voilà. Non, mais pendant qu'on dépense des milliards et des milliards d'euros dans le nucléaire, au lieu de les mettre dans les énergies renouvelables, au lieu de les mettre dans l'accompagnement des plus défavorisés, des personnes qui subissent l'impact du réchauffement climatique dans la transition écologique, au lieu de les mettre sur une alimentation de meilleure qualité, une agriculture réformée et une alimentation de meilleure qualité pour un grand nombre, eh bien, on oublie, pendant qu'on se lance
la rénovation,
tout ça pour le nucléaire,
c'est ça,
on oublie la rénovation des logements. On est aujourd'hui à peu près 1 milliard d'euros par an, alors qu'il en faudrait 4. Il en faudrait 4 fois plus. On développe à minima l'éolien offshore, alors qu'on sait que c'est une solution, d'avenir. On ne développe pas assez le désenclavement, on ne s'intéresse pas assez, même si la loi d'orientation pour la mobilité présentée par Elisabeth Borne est assez ambitieuse en la matière, mais on ne développe pas assez le désenclavement des territoires ruraux les plus isolés, on ne met pas assez vite en place les solutions qui permettent à ceux qui sont obligés de prendre leur véhicule pour aller au travail, eh bien d'utiliser d'autres moyens de transport, et on ne fait pas du réseau ferré la colonne vertébrale de nouvelles mobilités moins polluantes et ayant un impact moins fort sur l'environnement. Je voudrais juste rajouter, mais vraiment d'un mot, il y a quelque chose qui me hérisse la poil à chaque fois que je l'entends, et je l'ai entendu encore ce matin sur votre antenne à 8h20. On nous parle du véhicule propre. Alors, je voudrais vraiment que vos éditeurs aient à l'esprit, et auditrices aient à l'esprit, que le seul véhicule propre qui existe, c'est vos deux pieds.
Okay. On dit Audrey Pivard qui est venue en vélo, oui, mais oui. on peut pas marcher pédaler tout le temps sur toutes les distances.
Évidemment, il ne s'agit pas pour moi de dire qu'on ne doit que marcher, mais il faut arrêter de se dire que la voiture propre va venir et résoudre tous nos problèmes, parce que ça c'est faux. Il y a des voitures qui sont moins polluantes, c'est vrai, mais on ne peut pas, même si on a un véhicule électrique super efficace, super performant, ou un véhicule hydrogène super performant, ça ne nous fera pas, on ne pourra pas faire l'économie de la sobriété en matière de consommation d'énergie et d'autres modes de transport pour avoir un moindre impact sur l'environnement.
Non, Emmanuel Le Chypre.
Je crois qu'il ne faut pas se mentir, il y a un seul sujet à traiter, c'est le sujet de la mobilité. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur l'habitat, on arrivera à trouver à la fois les solutions techniques, technologiques.
Mais c'est financier.
Le chauffage,
c'est
ça
grosse,
reste. Le chauffage, ça reste.
Les émissions de gaz à effet de serre.
Sauf que
je suis d'accord. La mauvaise isolation des logements.
Mais c'est pas forcément.
Et c'est un vrai enjeu de pouvoir d'achat.
Mais c'est pas forcément ce qui pèse le plus en émissions de gaz à effet de serre ou en volume.
Mais ça pèse sur le budget des ménages.
Qui sera le plus compliqué à traiter. C'est-à-dire qu'en gros, si vous arrivez, non mais parce que avec la fiscalité qu'on va mettre en place, avec effectivement une réflexion un peu poussée sur la façon de soulager cette transition. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, est-ce que il faut pas carrément, pour certaines populations les plus fragiles, leur offrir, entre guillemets, leur installer la chaudière, etc., qu'ils ne rembourseraient, par exemple, qu'avec les économies qu'ils font, etc. Il y a des financements à trouver.
Oui, mais sauf que le gouvernement ne prend pas ce chemin-là.
Non, la vraie difficulté, ça va être de faire comprendre aux gens que la mobilité maximale, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est où on veut, quand on veut, avec sa voiture, et que ça, vous pouvez inventer toutes les technologies que vous voulez de déplacement propre, etc., c'est que ça ne sera plus possible. Et donc la vraie révolution culturelle, ça va être comment faire que demain, on sera moins mobile.
Alors, est-ce que la transition écologique, on se donne encore une minute, est-ce que la transition écologique, ça sera fatalement, pour les ménages, pour les auditeurs, un choc fiscal? Est-ce que ça sera bouger moins, comme le dit Emmanuel Lechypre? Est-ce que c'est
pas
ça notre futur?
C'est pas bouger moins, c'est bouger différemment.
Christian Chavagneux. On a dépensé en 2017 et en 2018 sûrement à peu près 41 milliards pour la transition écolo. Il nous manque 10 à 30 milliards. Donc voilà, c'est dans le logement. Et qui fait les efforts? 17 milliards les ménages, l'État, les collectivités locales, 14 milliards, les entreprises 10 milliards. Qui ne fait pas l'effort aujourd'hui? C'est les entreprises, c'est pas les ménages. Les ménages sur le logement, ils font attention, sur la voiture, ils dépensent de l'argent. Nous, les Français, on le fait. C'est les entreprises qui le font pas. C'est l'État qui le fait pas assez. Il nous manque le plus sur la rénovation des bâtiments. Il faut que la puissance publique amène de l'argent. Il manque 5 à 8 milliards. Les voitures propres, enfin relativement propre, 5 à 6 milliards moins polluantes. Les taxes environnementales, en pourcentage du total des recettes fiscales en France, on est 26e sur 28. Ouais. Donc oui, il va falloir payer plus notre carbone, plus cher notre essence.
Et ça marche.
Et c'est pas que les Français qui
allez, le mot de la
payer.
Fin, Audrey Pulvar, la fiscalité contraignante, ça marche. Quand on a aligné la fiscalité du diesel sur l'essence, eh bien les ventes de véhicules diesel ont baissé. Elles sont même devenues, en 2017, minoritaires pour la première fois depuis des décennies. Donc la fiscalité qui est contraignante sur les énergies fossiles, ça fonctionne. C'est un dispositif.
Mais il faut l'accompagnement social.
Mais il faut que le produit de cette taxe accompagne et serve à financer la transition écologique et solidaire, et non le CICE. Et je rappelle que c'est le quinquennat précédent de François Hollande et Ségolène Royal, ministre de la transition écologique, qui avait décidé de consacrer le produit de la taxe carbone au CICE. Donc quand je les entends critiquer le dispositif aujourd'hui, ça me fait doucement rigoler.
Audrey Pulvar, la présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme, Christian Chavagneux, Emmanuel Lechypre, merci à vous. On continue le débat. Il va être, à mon avis, électrique, un peu avec un mauvais jeu de mots. Dans la prochaine demi-heure, l'invité du Mageco, c'est donc le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy. Mais avant le patron, je vous propose d'écouter les salariés. Comment eux ont-ils reçu les annonces, les choix du chef de l'État? La parole aux électriciens. Ceux qui restent inquiets ont donné de la voix.
Au nom de la région et des syndicats, on tient à remercier chacun et chacune sur la mobilisation. Parce que je le rappelle, la dernière annonce de Macron sur la question de la PPE, en compte le rendu de la PPE, sa seule annonce, c'est les fermetures de centrales à charbon, où derrière l'emploi et le projet industriel énergétique en France n'est pas du tout apporté.
Plus particulièrement sur l'annonce de la PPE, on peut noter, fermeture centrale à charbon, sans vision à long terme sur l'industrie énergétique en France. Sachez que les centrales à charbon permettaient aussi de répondre à une pointe en été comme en hiver à une demande énergétique. Et si demain ces centrales à charbon sont fermées sans ouverture de l'EPR de Flamanville, ça peut être des délestages de partout dans le pays.
Délestage, c'est-à-dire ?
Délestage, ce sont des régions entières qui peuvent être, pour raison, de risque de rupture d'énergie sur l'ensemble du réseau français, de délester, donc de couper l'électricité sur certaines régions pendant 10 minutes, un quart d'heure, voire une heure, voire plus.
Donc vous n'êtes pas rassuré par cette PPE ?
Ah non, pas du tout. On n'est pas du tout rassuré. Aller expandre les EPR en Angleterre, où la CGT de l'énergie a déjà fortement interpellé les différents partenaires et les différents gouvernements sur le risque potentiel de l'avenir d'EDF, mais aussi le risque financier où EDF n'a pas les épaules financières pour pouvoir assurer toutes ces grandes parties de projets industriels aussi bien en Europe, mais aussi dans le monde.
Il s'appelle Olivier Fégueux, il est de la CGT Énergie, et là il parle face à des agents des Yvelines. Nous sommes à 45 km de Paris. On entend bien les inquiétudes sur cette équation compliquée d'EDF, les centrales à charbon, le nucléaire, la dette. Quel avenir pour le groupe? Comment faire la transition dans un univers de plus en plus concurrentiel à l'échelle de la planète, mais aussi en France? Alors cette pression-là, c'est sur un plateau de conseillers clientèle qu'on peut la mesurer. Nous quittons les Yvelines, nous sommes à présent à Nogent-sur-Marne, dans un centre de relations clientèle. Ça sonne doucement un peu partout et notre reporter Dila Tebi continue de prendre le pouls de l'entreprise.
Je vous écoute. Des offres qu'on vous propose? Oui. D'accord. Bah, c'est normal. Donc on va voir ensemble donc les offres tarifaires, les offres que je peux vous proposer.
Bonjour.
Bonjour, Maurice Azoulay.
Bonjour, Dila Tebi, France Inter.
Enchanté.
Vous êtes à votre bureau, au milieu de ce qu'on appelle un plateau.
Voilà, un plateau clientèle.
C'est-à-dire que là, vous avez...
C'est un centre de relations clients que vous êtes.
Ok, donc il n'y a que des conseillers derrière leurs ordinateurs, avec casque aux oreilles.
Oui, tout à fait.
Vous êtes salarié depuis combien de temps ici, chez EDF?
EDF depuis 1982.
Aujourd'hui, est-ce que vous êtes syndiqué?
Je suis syndiqué, oui.
Oui.
Manager syndiqué, CFDT.
La CFDT. Qu'est-ce que vous pensez de la place du nucléaire, de la transition énergétique?
Alors moi, ce que je peux dire, le nucléaire est indispensable. Moi, je suis pas pour la fermeture de centrales, je suis pour la sécurisation de l'énergie en France, c'est-à-dire qu'on ne manque pas d'énergie à n'importe quel moment. Il faut s'adapter aussi à des nouvelles énergies, que ce soit solaire, hydraulique, éolien. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à développer.
Ça veut dire des investissements?
Des investissements lourds pour EDF, pour le nucléaire, hein, le grand carénage, plus de 50 milliards. Maintenant, on doit répondre à toutes nos demandes de clients, les satisfaire, développer l'énergie verte. La concurrence est lourde, on perd 100 000 clients par mois actuellement. Tout n'est plus acquis, comme avant où on avait 100% du portefeuille client. Il faut s'adapter.
Qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
Une double écoute, c'est-à-dire que j'écoute mes agents. C'est un accompagnement téléphonique qu'on fait régulièrement pour accompagner nos conseillers.
D'accord, donc ça veut dire que vous allez écouter une discussion entre un client et un conseiller?
Voilà, tout à fait.
Oui, bonjour madame.
Excusez-moi de me déranger.
Vous ne me dérangez pas.
S'adapter à la concurrence, sachant que 10 ans après la libéralisation du marché, les alternatives commencent à sérieusement grignoter l'ancien monopole. C'est donc une perte de revenus, alors qu'on entend beaucoup d'inquiétudes sur la situation financière de l'entreprise. Sa dette atteint aujourd'hui 33 milliards d'euros. Mais au comité central de l'entreprise, là où les syndicats représentatifs sont informés et consultés sur les choix économiques et les grandes décisions d'organisation, eh bien dans ce comité, on préfère relativiser. François Dos Santos est le numéro 2 du CCE.
En réalité, la situation économique d'EDF, elle peut être préoccupante, mais elle n'est pas compromise. Donc on peut pas dire, comme on entend parfois, EDF est en faillite ou il faut sauver EDF. Par contre, il y a de lourds investissements à faire dans les prochaines années, donc il y a besoin forcément de mobiliser des capitaux importants. Mais finalement, comme c'est arrivé au début des années 70, au démarrage du parc nucléaire, ou même en 46, au moment de la création d'EDF, quand il a fallu reconstruire le réseau. Bref, un nouveau cycle d'investissement à ouvrir, donc forcément, ça demande de se donner les moyens de le faire.
Alors, ces moyens, on parle d'un groupe qui est très endetté.
C'est un terme qui est pas exact. Il suffit de regarder quel était l'endettement d'EDF dans les années 70, regarder l'endettement d'EDF au début des années 2000. Donc aujourd'hui, quand il y a besoin d'investir, quand c'est pour des équipements collectifs qui vont servir à 30 millions d'utilisateurs d'électricité, je crois que la question de l'endettement, elle se pose pas en termes aussi court-termistes. En fait, on pourra raconter ce qu'on veut sur d'où vient l'argent de gagne EDF. Il y a deux déterminants à l'argent de gagne EDF, c'est le prix de marché. Et le deuxième déterminant, c'est la durée de fonctionnement de nos centrales. Combien de kilowattheures on va fabriquer dans une année? C'est ça qui va faire la création de richesse dans l'entreprise. Il faut quand même savoir que quand les prix de marché augmentent de 3 euros aujourd'hui, EDF fait 1 milliard d'euros d'excédent brut d'exploitation supplémentaire. D'un coup. On voit bien, d'ailleurs, les prix de marché ont augmenté ces derniers mois. Donc bientôt, on va dire que EDF est sauvé, tout va mieux, et on va totalement oublier les débats qu'on a eus ces 3 dernières années. Donc, il y a besoin d'avoir de la visibilité sur les recettes que l'on aura dans les 20 prochaines années à venir, si on veut pouvoir mettre un centime pour investir. Et la difficulté essentielle d'EDF aujourd'hui, c'est que le marché électricité étant totalement libéralisé, les mégawatts que l'on produit, on ne sait pas à quel prix on va les vendre. Ça dépend du prix de marché, au jour le jour, au mois le mois. Donc aujourd'hui, un opérateur qui va investir 10 milliards dans un projet, il n'est pas certain de pouvoir couvrir son investissement sur 50 ans.
Est-ce que les annonces du chef de l'État ont donné plus de visibilité à EDF? Patrice Geoffron est professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine et directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières.
Il ne me semble pas qu'il y ait eu ces derniers jours des éléments nouveaux. Il n'y a rien de bouleversant pour ce qui est de la PPE. On est plutôt dans un scénario qui est un scénario médian et qui n'introduit pas de bouleversement à l'évidence à court terme dans le parc nucléaire. Mais on n'a peut-être pas retenu que dans le même temps, le chef de l'État n'a pas pris d'engagement sur un nouveau cycle du nucléaire. L'attente de l'État vis-à-vis d'EDF, je pense, c'est d'être un acteur de la transition bas carbone. Et encore une fois, tout ça pourra se faire à la condition d'avoir les bonnes échéances. La grande difficulté face à laquelle se trouve EDF, c'est d'être d'ores et déjà un acteur du décarboné via le nucléaire. Et donc de devoir gérer la montée en puissance de nouvelles filières électriques décarbonées, ce qui est absolument essentiel, de faire sortir du parc à court terme du charbon, qui est une énergie évidemment qui est la pire pour produire l'électricité, mais qui présente le grand avantage de la flexibilité, et de faire tout ça en transformant ses ressources humaines de telle manière à faire fonctionner à la fois, et encore une fois, ce sera un tour de force dans la décennie à venir, et dans la décennie 2030 plus encore, un grand parc dans lequel il restera des moyens de production qui sont ceux que l'on connaît sur le nucléaire, et puis par ailleurs, évidemment, l'hydroélectricité, et tout en assurant la montée en puissance du renouvelable. Une partie de ce renouvelable, par exemple, sera insérée à l'habitat et pourra donner lieu, par exemple, à des modèles de consommation très très nouveaux dans lesquels certains de nos concitoyens autoconsommeront l'électricité qui sera produite sur leur toit ou au sein de leur collectivité, éventuellement stockée avec des batteries. Aujourd'hui, ce phénomène est un phénomène qui est à peine émergent, mais qui, dans la décennie 2030, pourrait être massif. RTE, qui est le transporteur d'électricité, a des scénarios dans lesquels il nous indique qu'à l'horizon 2035, 4 millions de ménages pourraient autoconsommer leur électricité. Ce qui, pour le moins, est une perspective très très nouvelle pour l'ensemble de nos concitoyens et pour nous-mêmes, mais également, évidemment, pour EDF, qui est au cœur de ce système. Donc, le cahier des charges de la transformation d'EDF est un cahier des charges qui, évidemment, est particulièrement dense.
L'avenir d'EDF en question, c'était le reportage de Dilatebi.
Tous les samedis, à partir de 9h, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et le PDG d'EDF vient de s'asseoir dans le studio 521, Jean-Bernard Lévy. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir choisi France Inter ce matin. Alors, cette feuille de route énergétique dont on a déjà bien débattu en première partie de cette émission, excellente nouvelle, c'est ce que vous avez écrit à vos salariés. Ségolène Royal, elle dit que c'est le lobby du nucléaire qui l'a emporté. En fait, vous dites la même chose.
Ségolène Royal, et vous. Ce qui l'a emporté, c'est la nécessité de planifier à moyen et long terme notre transition énergétique. Ce qui l'a emporté, je crois, c'est la volonté de répondre avec des solutions multiples. Et vous en avez parlé tout à l'heure, j'écoutais le débat très animé que vous animiez. Et je crois aussi, ce qui l'a emporté, c'est la démonstration que si l'on veut se débarrasser des énergies fossiles qui polluent, qui ont un temps de vie limité, eh bien l'électricité, c'est bien l'avenir, c'est bien la solution, parce qu'on sait fabriquer beaucoup d'électricité sans nuire à la qualité de l'air et en préservant la planète au titre de l'effet de serre. Et l'électricité dont nous sommes les champions, mais pas, nous ne sommes pas les champions que de l'électricité, nous sommes aussi les champions de la sobriété en matière de consommation énergétique, l'électricité va trouver toute sa place, notamment parce que dans le logement et encore davantage dans la mobilité électrique, que ce soit par les voitures électriques, que ce soit par les bus électriques, nous avons de plus en plus d'applications de l'électricité qui vont se substituer à l'utilisation de combustibles fossiles.
Que dites-vous
qui ne sont pas durables.
On a parlé tout à l'heure des projections de demande d'électricité qui seraient plutôt à la baisse. Ça n'est pas votre constat?
Alors ce n'est pas le constat. Ce n'est certainement pas le constat dans le monde où la croissance de la production d'électricité est très élevée. Tous les rapports de l'Agence internationale de l'énergie, qui est une agence des Nations Unies, montrent que la consommation va augmenter assez largement. En France, aujourd'hui, la consommation est stable ou en très légère hausse. Et il y a un débat pour savoir si à l'avenir, parce qu'il va y avoir plus de sobriété, la consommation va stagner, comme aujourd'hui, ou bien si elle va légèrement augmenter, ou bien pourrait-elle aussi légèrement baisser. Ce qui est certain, c'est que notre rôle chez EDF, c'est tous les Français qui attendent d'avoir de l'électricité, c'est de faire que dans tous les scénarios,
les Français puissent avoir de l'électricité dans des conditions économiques qui soient raisonnables.
Le scénario...
Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. L'électricité, ça marche. Et elle est nettement moins chère que chez nos voisins, en particulier que chez nos voisins allemands.
Le scénario retenu par l'exécutif, on peut dire que c'est un scénario très très proche de celui qu'avait recommandé EDF ?
Nous avons fait un cahier d'acteurs. En fait, le débat a été très public, puisqu'au printemps dernier, nous avons publié nos souhaits, comme tous ceux qui souhaitaient s'exprimer dans le débat sur l'énergie. Il y a eu un grand débat sur l'énergie qui a duré quasiment 6 mois, premier semestre, puis le gouvernement vient de trancher. Et nous avons formulé des recommandations. Certaines de ces recommandations ont été plutôt suivies par le gouvernement, d'autres ne l'ont pas été, et donc nous avons à nous insérer dans cette planification.
Excellente, ce qui est très important, c'est qu'elle existe. Excellente nouvelle,
c'est une excellente nouvelle, parce que tout le monde voit bien que l'électricité, c'est l'avenir. Bon. Et c'est ce que j'ai dit dans le mail aux salariés. Excellente nouvelle, parce que l'électricité, c'est notre avenir.
Jean-Bernard Lévy, c'est 14 réacteurs au plus qui doivent fermer d'ici 2035. Ce sont ceux qui atteindront quoi, 40 ans d'âge, c'est ça la cible ?
Alors, notre recommandation, c'est que tous les réacteurs aillent jusqu'à 50 ans et certains jusqu'à 60 ans, comme c'est le cas aux États-Unis aujourd'hui. De nombreux réacteurs sont en train d'aller vers les 60 ans. Et nous, c'est d'étaler, parce qu'on a construit le parc nucléaire dans les années 70 et 80, pour l'essentiel sur 15 ans. Mais nous, on estime qu'il ne faut pas les arrêter sur 15 ans, parce que ça ferait des chocs qu'on ne saurait pas bien gérer, que ce soit sur le plan social, sur le plan industriel, sur les territoires concernés.
Mais donc lesquels?
Et donc on a proposé d'étaler la fermeture des réacteurs qui ont pour l'essentiel été construits sur 15 ans. On a proposé de les étaler sur 30 ans, en commençant aux alentours de 2030. Le gouvernement ne nous a pas suivis. Il a dit non, il faut commencer un petit peu avant. Et puis en terminant vers 2060, donc en étalant ces fermetures des réacteurs aujourd'hui. On a aussi proposé dans le cahier d'acteurs de faire beaucoup, beaucoup de renouvelables. Hein, nous avons lancé il y a déjà un an un plan solaire qui a été jugé à l'époque très ambitieux et peut-être même trop ambitieux. Alors qu'en réalité, on voit aujourd'hui qu'il s'insère parfaitement dans les objectifs d'électricité solaire qui viennent d'être fixés par l'État.
Mais si on reste sur ces 14 réacteurs, donc on ne sait pas encore, ou vous ne dites pas encore lesquels vont fermer?
Oh ben c'est très
combien
simple, c'est le bon sens. C'est parmi les plus anciens qu'on sélectionnera le moment venu ceux qui vont fermer. C'est le bon sens, hein. C'est parmi les plus anciens. Simplement, on le fera à peu près 3 ans avant la date de fermeture. Ce n'est pas aujourd'hui, donc il n'y a aucune raison de faire ce choix aujourd'hui. Mais tout le monde sait parfaitement la date de mise en service des réacteurs. Et c'est parmi les réacteurs anciens qu'on fermera le plus tôt les réacteurs atteignant les 50 ans, ou pas tout à fait.
Alors, on arrête des réacteurs, mais vous voulez, on le comprend bien, d'après vos propos, les remplacer. Décision sur d'éventuels nouveaux EPR en 2021. 2021, c'est le temps de voir si Flamanville prend encore du retard, c'est le temps de voir si Flamanville, la facture dérape encore, c'est ça ?
Le 2021, c'est le temps de préparer un dossier complet qui s'appuiera sur l'expérience des EPR qui sont aujourd'hui en fonctionnement, comme en Chine, où un EPR fonctionne très bien. Mais il fonctionne très bien. C'est quand même la preuve que la technologie tourne. Hein. Les EPR, comme celui de Flamanville, la préparation des aspects économiques, des aspects de régulation, du choix des sites. Nous avons un dossier assez compliqué que le gouvernement nous demande de terminer à peu près dans 2 ans et demi pour que, le moment venu, c'est pas EDF qui décide, le moment venu, l'État décide ou non, de construire des EPR supplémentaires. Je rappelle que on est champion des renouvelables, on le dit jamais assez. EDF est le numéro 1 européen et le numéro 1 mondial hors Chine des renouvelables.
Mais alors justement,
on a aussi besoin d'une électricité pilotable. Et l'électricité pilotable, dès lors que, et c'est ce qu'on avait suggéré, on ne reconstruit pas de centrales au gaz, on ne rallume pas de centrales au charbon comme les Allemands l'ont fait, dès lors que tout cela existe, il va falloir de l'électricité pilotable.
Mais Jean-Bernard
Lévy, pour compléter
Lévy,
l'électricité intermittente.
Mais le solaire...
Je termine. Oui. L'électricité pilotable, soit c'est l'hydraulique, mais il n'y en a pas assez, soit c'est du nucléaire, et c'est ce que le GIEC a dit. Le GIEC qui travaille sur le climat pour nous tous, là aussi une autre émanation des Nations Unies, dit on va avoir besoin de nucléaire. Évidemment, le nucléaire n'est pas la solution passe-partout, mais on a besoin de nucléaire parce que le pilotable hydraulique n'est pas suffisant et les pays comme la France qui font le choix d'être exemplaires en matière de climat, le président de la République l'a dit à plusieurs reprises, nous n'allons pas reconstruire de centrales au gaz, nous n'allons pas importer davantage de gaz.
Mais il y a une équation économique quand même. On voit bien que les prix, les coûts du solaire, de l'éolien, ça chute, alors que chaque génération nucléaire, elle coûte plus cher que la précédente.
Ce qui est comparable,
et vous êtes une
Madame
entreprise
Bensaïd,
déjà très endettée.
Voilà, comparons ce qui est comparable. Quand on regarde les coûts, il faut regarder vraiment des coûts complets. Des coûts de l'électricité dont on a besoin, pas les coûts de l'électricité qui se produit quand le vent souffle, quand le soleil brille. Quels sont les coûts du stockage? Ils sont aujourd'hui très élevés. Et donc, il faut comparer l'électricité telle qu'elle est consommée et pas seulement telle qu'elle est produite. Il faut regarder le coût du stockage. Nous, on serait très contents si le coût du stockage était très bas. Malheureusement, le coût du stockage, il est très élevé. Et en plus, il pose des problèmes environnementaux. Parce que si on multiplie les batteries, que fera-t-on de ces batteries une fois qu'elles seront arrivées en fin de vie? Donc, il n'y a pas de panacée, il n'y a pas
de
solution.
Oui, il y a des déchets comme dans le nucléaire, on va dire. Hein, oui.
Il faut trouver, et chaque pays le fait, et la France le fait maintenant à travers cette planification, cette stratégie énergétique nationale, il faut trouver les solutions qui s'adaptent à nos besoins. Et dans ces solutions, nous le disons, nous aurons beaucoup de renouvelables. Et c'est quand même nous qui avons attiré l'attention sur le fait qu'on peut faire beaucoup plus de solaire en France que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est quand même le comble qu'il y ait beaucoup plus d'énergie solaire en Grande-Bretagne qu'en France. C'est quand même quelque chose qui étonne tout le monde.
Jean-Bernard Lévy,
et puis il faut faire aussi le nucléaire. Bien sûr, il faut faire les deux.
Parlant du prix d'électricité, plusieurs associations alertent. La hausse du prix de l'électricité sera forte en 2019 et en 2020. L'une de ces associations arrive même à une hausse sur la facture de plus 8, plus 10% sur cette période. Est-ce que c'est exact?
Écoutez, moi je ne sais pas vous répondre parce que ce n'est pas EDF qui fixe le prix de l'électricité. Ça n'a jamais été EDF qui fixait le prix de l'électricité.
Alors vous pouvez me répondre
sur la matière. Madame Royal, la réglementation a un petit peu changé. C'est-à-dire que maintenant c'est la commission indépendante, la commission de régulation de l'énergie, qui suite à la loi qui a été votée en 2015, fixe le prix de l'électricité. Le gouvernement peut s'y opposer ou ne pas s'y opposer. Et donc un processus va se dérouler où cette commission indépendante va publiquement formuler une recommandation au gouvernement. Et le gouvernement, dans la loi que Mme Royal a portée, le gouvernement accepte ou n'accepte pas la recommandation de la commission indépendante et nous appliquerons bien évidemment les décisions qui seront prises à ce moment-là.
Alors vous fournissez quand même sur la facture, il y a trois choses sur une facture finalement. Il y a le prix de l'électricité, la matière, il y a le prix du transport et puis il y a les taxes.
Voilà, trois tiers, exactement.
Ça fait trois.
À peu près trois tiers.
Et donc vous êtes responsable de deux quand même.
De ces tiers,
la matière et le réseau et le transport.
Nous sommes responsables de la production des électrons et nous sommes responsables de ce qu'on appelle dans notre jargon l'acheminement, c'est-à-dire
les tuyaux.
Fait qu'on le produit à un endroit et qu'on le consomme à un autre.
Donc si vous êtes
sauf
responsable
la partie transport, parce que si je ne rappelle pas que la partie transport est gérée de façon très très indépendante, le régulateur m'en voudra, donc je le dis.
Alors Jean-Bernard Lévy, vous pouvez me répondre, est-ce que c'est sur ces deux tiers sur lesquels vous avez la main, est-ce que c'est ça qui augmente?
Et je ne vais pas vous répondre et je vais peut-être vous décevoir, mais les calculs ne sont pas faits par EDF, ils sont faits par la commission de régulation indépendante qui, je crois, au début de l'année prochaine, doit formuler une recommandation au gouvernement.
Est-ce que les opérateurs alternatifs devraient pouvoir acheter à EDF plus de l'électricité que EDF produit? C'est ce qu'ils demandent.
Les opérateurs alternatifs, je crois qu'il faudrait surtout qu'ils produisent de l'électricité. Parce qu'aujourd'hui, un dispositif a été mis en place il y a bientôt 10 ans. Ce dispositif, c'est que nous sommes forcés de vendre notre production à un prix très bas à nos concurrents. Alors ça va bien un moment. Aujourd'hui, nos concurrents sont de très gros groupes, de très grands groupes qui sont souvent très,
Total,
très
par
riches.
Exemple, oui.
Je ne vais pas les citer. Des grands groupes très, très riches. Alors que ce soit EDF, qui appartient quand même à tous les Français, hein. Nous sommes une société publique. Que ça soit EDF qui subventionne ces très très grands groupes, très très riches, je crois qu'à un moment, faut arrêter le système et c'est ce que nous souhaitons.
Une toute dernière question rapide, si vous voulez bien. L'État français qui a déjà 84% d'EDF et qui dit « je vais peut-être monter au capital », ça fait quelle différence pour vous?
Et c'est à l'État d'en décider. EDF a été pendant longtemps, même pas une société, un établissement public de l'État. Ensuite, on a été devenu il y a une quinzaine d'années, une société partiellement cotée en bourse. Le président de la République, dans son discours, a dit qu'il mettait en place une réflexion de savoir si, au titre des enjeux du nucléaire, qui est quand même une activité très, très spécifique, au titre des enjeux du nucléaire, peut-être l'État pourrait augmenter sa participation en capital. Et nous allons observer la manière dont l'État traite ce sujet. Mais c'est vraiment un sujet de l'État.
Le PDG d'EDF, détenu donc à 84% en effet par l'État,
exactement.
Jean-Bernard Lévy, était ce matin l'invité d'On n'arrête pas l'écho. Merci.
Merci à vous.
Allez Sandrine, foulons avec vous, nous restons dans la transition écologique. Ma vie au boulot, un sujet important, le vélo, mais encore plus important, c'est le coursier sur la selle.
Oui Alexandra, l'écologie c'est parfois compliqué à marier avec le droit du travail. C'est sympa le vélo, c'est écolo, mais les livreurs qui pédalent pour nous amener sushi et quinoa ne sont pas salariés. Tout le modèle économique des grosses plateformes numériques comme Deliveroo ou Foodora repose là-dessus, surtout pas de contrat de travail. Mais voilà, cette semaine, la Cour de cassation a rendu un arrêt renversant. Sous la houlette du président Catala et du doyen Huglot, la haute juridiction a requalifié un coursier auto-entrepreneur en salarié. Quand une plateforme, en l'occurrence Take It Easy, Malaisie met en place un système de pénalités pouvant aller jusqu'à l'exclusion du livreur. Cela relève, pour les juges, du pouvoir de sanction d'un employeur. Pour Alexandre Fabre, professeur de droit à Nanterre, l'aspect le plus créatif, le plus novateur de cet arrêt, c'est surtout la géolocalisation. Les juges estiment qu'une plateforme qui peut suivre à la trace, en temps réel, les coursiers, dispose là aussi d'un pouvoir de sanction. Si on peut être sanctionné par une plateforme, c'est qu'il y a lien de subordination. Qui dit lien de subordination dit contrat de travail.
Et donc on comprend maintenant avec cet arrêt, c'est ça, est-ce que ça veut dire que les auto-entrepreneurs, je vais y arriver, vont se précipiter pour se faire requalifier en salarié?
Oui, c'est probable. Il y a déjà des affaires en cours, portées notamment par des chauffeurs Uber. Cette décision va dans le sens d'autres juridictions aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et plus récemment en Espagne. En France, c'est surtout le message porté par cette décision qui est courageux car il est à contre-courant. Dans la loi Avenir professionnel, des amendements de la majorité prévoyaient que les plateformes qui rédigent des chartes de droits sociaux soient assurées de ne pas devoir salarier leurs livreurs. Ces amendements ont finalement été retoqués, mais le législateur pourrait revenir à la charge. On attend ce que va dire précisément le projet de loi d'orientation sur les mobilités. Si ce texte sécurise les plateformes, c'est la loi qui gagne, les juges devront s'incliner. Les plateformes ont développé de leur côté des réflexes darwiniens pour s'adapter aux nouvelles jurisprudences. Comme en vélo, l'épreuve de poursuite ne fait que commencer.
Ma vie au boulot, Sandrine Foulon, c'est tout de suite plus clair.